Monsieur François, bonsoir.
Salut Dan, ça va bien?
Ça va bien, toi?
Oui, oui, merci.
Est-ce qu'on se remet d'une perte d'un joueur de la trempe de Tarasenko?
Ouf! Ben écoute, je pense que les Blues ont quand même beaucoup de profondeur, beaucoup d'expérience. C'est sûr que ce qui s'est passé l'année passée en série aide beaucoup à compenser. Mais je pense que les Blues ont quand même encore une chance de se classer pour les séries sans Tarasenko. Mais à ce moment-ci, Dan, avec sa blessure, je pense que ça repose encore plus sur les épaules de Jordan Binnington que c'était le cas au début de la saison. Mais ça change quand même beaucoup de choses. Mais ils ont des bons leaders avec des gars comme O'Reilly, Pietrangelo et compagnie. Donc, je pense qu'ils vont être capables de survivre et de au moins se classer pour les séries.
Je vais faire un très mauvais négociateur de moi-même. Je vais être très honnête, par contre. J'ai Jordan Binnington dans l'un de mes deux pots à vie. OK? Donc, oui. J'ai suranalysé son travail depuis le début de la saison pour voir quel genre de match il gardait puis comment les Blues allaient. Sincèrement, depuis le début de la saison, j'ai pas trouvé si bon Jordan Binnington.
Mais c'est-tu quoi? Puis je vais le dire sans aucune méchanceté, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois que Jake Allen vient devant le filet, la valeur de Binnington augmente. Dans le sens où Jake Allen n'a jamais été capable d'être un numéro un. Il y a eu plusieurs matchs difficiles, dont évidemment celui à Saint-Louis contre le Canadien où il avait très mal paru. Mais c'est sûr que Binnington, un peu moins solide que l'an passé,
oui.
Mais au moins, je pense qu'on se rend compte rapidement que c'est pas une histoire à la Hamburglar, là, Andrew Hammond, là, que lui est arrivé puis ça a été quoi, les 30 derniers matchs de la saison, puis après ça, ça n'a plus jamais été un gars de la Ligue nationale. Mais dans le cas de Binnington, c'est rare que tu vois un gars à 25 ans connaître des séries comme ça sortir de sa coquille. Fait que tu sais, s'il donne... Et je ne sais pas, un 910-915 de pourcentage d'arrêt au lieu de 930 comme l'année passée. Tu vas probablement quand même être satisfait, mais c'est sûr que les attentes sont assez élevées dans son cas.
Oui, c'est ça. Est-ce que on n'ira pas chercher un joueur chez les Blues? On va espérer qu'il y a des jeunes comme peut-être Carew qui va être rappelé ou des jeunes comme Thomas et Blais qui sont déjà là produisent davantage?
Aucun doute là-dessus parce que c'est un club, quand même, je te disais qu'il y a de la profondeur. Puis le nom que tu as nommé, c'est celui qui m'est venu en tête tout de suite, c'est Robert Thomas. Puis Robert Thomas, c'est le gars que les Blues ne voulaient jamais, jamais donner quand ils ont essayé de s'améliorer dans les dernières années. C'était toujours le nom qui revenait. C'est un gars qui a eu une très, très belle carrière dans le junior, puis qui a toujours été cité comme un gars de premier plan. Je sais pas si ça va être cette année, parce qu'il a été blessé un petit peu, puis ça a été fort tranquille. Mais moi, je pense, Dan, dans le cas des Blues, il n'y a aucune panique. Tu as des jeunes qui vont prendre la place. Il y a peut-être quelques vétérans qui vont en prendre un petit peu plus. Mais je pense pas qu'on ait à faire un geste dramatique en raison de la perte de Tarasenko.
OK. Dans la Ligue nationale, hier, il y avait deux petits matchs. Là, j'ai regardé ça du coin de l'œil. Les Coyotes, sans dire m'impressionnent, ils sont meilleurs que je pensais. Je les ai vus hier dominer leur match contre les Sabres à Buffalo. Ils ont gagné en tir de barrage. Ils ont plein de joueurs un peu disparates. Là, t'sais. Carl Söderberg, l'ancien des Bruins, qui avait obtenu un gros contrat avec l'Avalanche. 34 ans, gros joueur de centre, efficace, capable de marquer une fois de temps en temps. Nick Schmaltz, qui a à peu près pas joué l'année dernière avec les Coyotes parce qu'il a été blessé. Il est bourré de talent, il arrive de Chicago. Dvorak avait pas joué l'année dernière non plus. Il avait été très bon avec les Knights de London, Christian Dvorak. Évidemment, Clayton Keller, qu'on connaît et qu'on suit depuis quelques années. C'est pas un superstar de la Ligue, mais c'est peut-être leur attaquant le plus talentueux. Bon groupe de défenseurs. Cooper puis Ranta, une fois de temps en temps, devant le filet. C'est une équipe qui, je pense, pourrait participer aux séries. Est-ce que je rêve?
Non, je pense pas que tu rêves. On arrive là avec les Coyotes. Là. Ça fait quand même quelques années là, qu'on attend que... Disons qu'on monte un petit peu plus la côte rapidement parce que la reconstruction a été assez pénible. Tu sais, je pense que les joueurs que tu as nommés sont vraiment les joueurs importants, puis que c'est un club intéressant qui manque certainement d'expérience puis de profondeur, mais c'est un club qui peut certainement aspirer aux séries. Même si je dois t'avouer, Dan, j'ai pas aimé la transaction Kessel-Galchenyuk. Moi, je pense que c'était pas du tout quelque chose à faire pour les Coyotes. Je comprends que c'est un Américain, c'est un ami à Rick Tocchet, mais tu sais, d'aller chercher un gars de 32 ans, on a donné le jeune Joseph, puis on a donné Galchenyuk. Je trouve qu'on a joué un peu avec l'argent du casino en se disant on prend une chance, mais je suis pas sûr que c'était une bonne transaction. Mais si tout le monde fait ses petites choses, puis les deux gardiens de but, t'as nommé Kemper et Ranta, continuent à faire leur travail comme ils font là présentement, assurément, ils ont une chance de participer aux séries, mais il faut aussi que quelques jeunes t'en donnent plus, parce que tu as parlé de Clayton Keller. Depuis son année recrue, c'est assez tranquille pour lui. Il a juste un but cette année. Puis je pense que c'est un gars qui doit en donner plus pour que les Coyotes puissent participer aux séries.
Ouais, puis tu sais, le chef de file en défensive, c'est Ekman Larson. Mais finalement, Goligoski, je trouvais qu'on lui avait donné trop d'années puis trop d'argent, mais il fait une bonne job. Tu sais, le gars sur la patinoire, un soir comme hier, je les regarde jouer. Puis évidemment, je parle d'eux, c'est pas par hasard. C'est pas juste parce qu'on jouait à Buffalo hier, c'est parce que c'est le prochain adversaire du Canadien demain en Arizona. Mais François, quand je regarde jouer Alex Goligoski, tu t'en souviens, on a fait l'exercice il y a quelques semaines sur les contrats accordés le 1er juillet aux joueurs de la LNH. Quand je regardais jouer Goligoski hier, puis il faisait une passe, puis je trouvais que c'était une belle passe, puis tu sais, c'est un gars mobile, Goligoski quand même, puis je me disais pas, ah non, lui, ça n'a pas de bon sens, j'arrête de le regarder jouer. Il avait donné 30 ans pour, mettons, 30 millions pour 5 ans, ça n'avait pas de bon sens. Ben non, c'est un joueur des Coyotes qui a un chandail sur le dos, puis il joue au hockey dans la Ligue nationale, puis son contrat n'a plus d'importance le soir du match, là.
Non, c'est certain, puis c'est ce que je me suis rendu compte avec les années, puis peut-être que j'étais un peu naïf, mais il y a beaucoup de joueurs autonomes quand même qui ont décidé d'aller jouer en Arizona. Puis, tu sais, pour bien des joueurs, le fait qu'il y ait moins de monde dans les estrades, très peu d'intérêt pour le hockey, d'avoir la paix, d'aller faire son argent, puis d'aller jouer au hockey, tu sais, en gougoune, je me suis rendu compte que ça a attiré quand même des agents libres de premier plan. Puis, ouais. Tu sais, il y a des gars, tu dis, ça me surprend, il me semble que j'aimerais ça jouer dans un marché de hockey où tu as une chance de gagner la coupe. Mais je pense qu'il y a plusieurs gars, puis Goligoski en est un exemple qui a toujours bien fait. Je pense avec Pittsburgh, Dallas, ça a été un bon défenseur. On dirait que c'est rendu en Arizona, c'est un gars qui lui ont donné un petit peu plus de glace, puis un petit peu plus de responsabilité. Puis il est devenu un défenseur quand même, je dirais pas de premier plan, mais quand même un bon défenseur. Mais ça me surprend de voir combien il y a de joueurs qui vont signer là pour les raisons contraires que tu vas signer à Montréal, Toronto, dans une ville canadienne.
Ça fait 2-3 semaines que je te parle de Mike Babcock. Est-ce que tu as l'impression que si ce soir, supposons que Washington l'emporte 4-0, tu penses-tu que ça va commencer à chauffer à Toronto? Nous, on se questionne depuis quelques semaines, mais en fin de semaine, je lisais qu'un journaliste influent de la région de Toronto a commencé à se questionner sur la longévité de Babcock derrière le banc, là.
Oui, bien écoute, on en a parlé un petit peu dans les dernières semaines. Moi, je pense que c'est une année très importante. Ça a commencé déjà à chialer. Écoute, ça, depuis l'année passée, là, quand ils ont été éliminés en première ronde, là, vraiment, le ton a monté. Ça a été un été un peu difficile pour les livres. Tu sais, sur la patinoire, en dehors de la patinoire, dans les bureaux, ça a brassé énormément. Tu sais, moi, je pense pas qu'on est rendu à se dire ce soir ou la semaine prochaine, ou tu sais, s'il en perd 5 de suite, il va perdre sa job. Mais moi, je pense que c'est plus l'année de vérité. Écoute, c'est sûr okay. Que si on se retrouve, Dan, au 5 janvier, puis que les livres sont pas en position pour faire les séries, là, ça va être une autre histoire. Mais moi, je pense que, écoute, l'objectif reste le même, c'est de participer aux séries. Peut-être d'éviter les Bruins de Boston, si c'était possible en première ronde. Mais si jamais les Leafs arrivaient en première ronde puis se faisaient sortir l'an prochain ou au printemps prochain, je pense que là, le coup près pourrait tomber. Parce qu'écoute, même si on le paye 7 millions par année, Babcock, là, c'est pas trop grave pour les Maple Leafs si on y paye les quoi, 3 ou 4 dernières années sur ton contrat. L'argent, c'est pas un problème là-dessus. Ce qu'on veut, c'est gagner des matchs. Puis la fenêtre est quand même assez petite pour chacune des équipes de la Ligue nationale.
Ton collègue Mike Bossy à TVA Sports l'autre jour disait, et j'ai retenu ça, puis je trouvais ça intéressant, c'est pour ça que je veux le partager avec les auditeurs ce soir, puisqu'on parle des Leafs. Il disait, ce sont tous des jeunes. Puis oui, Tavares est un peu moins jeune que les autres, mais c'est pas un gars de 35 ans qui a gagné 3-4 coupes, Tavares. Là, il arrive de jouer avec les Islanders. Lui, Mike Bossy, il dit, il n'y a pas de vétérans dans ce vestiaire-là, puis c'est ça qui fait mal aux Leafs.
Oui et non. Écoute, je comprends très bien le point. C'est sûr qu'au début, il n'y a pas de pression parce que les jeunes ne savent pas c'est quoi la pression de gagner. Puis ça, là, la pression a monté d'un cran. C'est sûr que tu aurais peut-être besoin d'un peu d'expérience, mais je continue de croire, Dan, que le problème, ça reste toujours défensivement pour cette équipe-là. Tu peux avoir les meilleurs attaquants du monde. T'as, oui, une bonne relance parce que tu as des bons défenseurs offensifs, mais je trouve que défensivement parlant, c'est un club qui est excessivement fragile. Puis là, tu vas arriver à la fin de l'année, puis tu sais pas si Byrie va revenir, tu sais pas si Mozun va revenir, puis tu sais, même un gars comme Steve peut partir. Tu dis à un moment donné, t'as un peu, là, on commence à avoir un club qui était déjà très fragile. Je comprends le point, puis c'est vrai que peut-être un peu d'expérience, ça pourrait aider. Mais le problème, c'est que ces joueurs d'expérience-là qui arrivent, s'ils n'ont pas assez de talent, ils joueront presque pas, comme ça a été le cas pour Marleau à la fin, puis des gars comme ça. Donc, je pense que c'est plus une question de chimie puis de défensive pour cette équipe-là, si on veut espérer faire un bout de chemin en série.
Évidemment, les anciens font toujours référence à leur parcours à eux. Puis Mike Bossy en a gagné des Coupes Stanley. En fait, les Islanders de son époque en ont gagné 4 de suite. C'est la dernière équipe à avoir fait ça. Puis lui, il disait, nous autres, dans le vestiaire des Islanders, je peux t'annoncer, quand on était jeunes, il y en avait des plus vieux que nous autres, là.
Oui, oui, puis tu sais, puis je comprends très bien l'explication, puis c'est important d'avoir des gars qui ont de l'expérience, puis souvent quelques-uns qui ont gagné autour de toi, puis tu sais, je regardais récemment un reportage sur le Canadien de 86, comment pendant toute l'année, les jeunes, Lemieux, Richer, compagnie, ouais, se sont battus avec les vieux, Gainey, Robinson et compagnie, ça a été la chicane toute l'année. Mais quand ils sont arrivés, à un moment donné, il y a eu une grosse rencontre dans le vestiaire. Ça s'est même battu, à un moment donné. Puis on a trouvé comme un terrain d'entente pour dire comment les jeunes puis les vieux peuvent travailler ensemble. Puis bon, ils ont gagné une coupe qui était inespérée. On n'a évidemment pas le même mélange dans certaines équipes. C'est pas aussi explosif que ce l'était dans les années 80-90. Mais ça reste que d'avoir quelques vétérans qui ont surtout une bague au doigt. Là, comme on a amené Maroon, par exemple, avec le Lightning. Ça, j'aime ça parce que c'est vraiment dire l'expérience, puis c'est ce que ça prend pour se rendre jusqu'au bout.
OK. François, t'as quoi? Début quarantaine, toi?
Oui, je viens d'avoir 41.
OK, parfait. Bon, début quarantaine, j'ai 49. On va dire qu'on est de la même génération. Ça va m'aider un peu, ça va me rajeunir. Dimanche, c'était la première fois depuis 2007 que Roger Federer et Tiger Woods gagnaient un tournoi la même journée. Pourtant, c'est deux gars qui ont outrageusement dominé leur sport et qui ont eu à gagner leur tournoi le dimanche parce que la finale au tennis, c'est le dimanche. Puis la dernière ronde d'un tournoi de 4 jours sur la PGA, c'est le dimanche. Mais là, Tiger a eu des déboires puis ça faisait un bail qu'il n'avait pas gagné la même journée. Ça m'amène à te poser la question suivante. Est-ce que toi, l'été, autour d'un feu de camp avec 3-4 chums, t'es capable d'en arriver à un consensus avec 4-5 de tes chums, ou toi-même as-tu la réponse à la question qui sont les athlètes qui ont le plus dominé leur sport depuis que toi tu suis le sport? Là, je veux pas entendre des Maurice Richard, des Gordie Howe, là, d'un gars de 41 ans comme toi, es-tu capable dans chacun des sports d'arriver à dire lui au hockey, lui au basket, lui au foot, lui au baseball, lui au golf, puis lui au tennis?
Écoute, pour quelques sports, puis t'as nommé Federer, Woods, c'est sûr que c'est des noms qui te viennent tout de suite en tête, mais pour les sports d'équipe, je trouve ça un petit peu plus difficile.
Okay.
Mais tu sais, moi, je te dirais là, que quand je pense sport d'équipe, puis domination, c'est sûr que Tom Brady au football et Michael Jordan au basket, c'est comme des gars qui ont dominé de façon outrageuse. Hey, c'est deux gars qui ont 6 bagues de championnat dans des sports où c'est supposé être la parité. C'est assez impressionnant. Écoute, Tiger Woods, victoire numéro 82 dans un sport individuel, ouais. C'est hallucinant, surtout un gars qu'on avait enterré puis qu'on pensait pas qu'il reviendrait.
Et François, parenthèse, parce que tu sais que je suis un tripeux de golf, parenthèse sur Tiger versus Sam Snead, je veux rien enlever à M. Snead, mais c'est pas la même époque de golfeur, là.
Oh non, puis je veux dire, le problème, c'est pour tous les sports de comparer les statistiques, là, ça marche pas. Là. Moi, je suis toujours au baseball. Cy Young a 511 victoires d'an en carrière. Il faudrait qu'un gars lance 25 ans à 20 victoires par année, puis il l'aurait pas encore rattrapé.
Ouais, ça
fait pas, ça fait pas ouais. de sens. Ouais. Fait que c'est pour ça que c'est difficile, mais juste pour compléter sur Federer, la seule chose avec Federer, c'est que tu as l'impression que Djokovic puis Nadal vont peut-être faire partie de la discussion. C'est comme s'ils étaient trois à avoir dominé leur sport sur une longue
ouais,
période.
Je comprends.
Avec okay. Federer qui a probablement une petite longueur d'avance sur les deux autres présentement. Mais moi,
au baseball,
c'est
plus tough, me semble. Au baseball, c'est plus tough.
Entièrement d'accord. Puis tu sais que quand tu énumérais les sports, puis je pensais justement au hockey puis au baseball, puis je trouvais ça un petit peu plus dur. C'est sûr que Lemieux, Gretzky, c'est pour notre génération, c'est les meilleurs joueurs de hockey. Mais je pense au baseball en général, puis c'est comme s'il y en avait eu beaucoup d'excellents joueurs. Mais on peut pas dire qu'il y en a un, tu sais, parce que Barry Bonds, peut-être on a des doutes sur lui puis des gars comme ça, mais je peux vraiment pas dire qu'il y en a un qui sort du lot pour notre génération quand on parle de baseball.
François, ce soir, 6e match de la Série mondiale à Houston. J'ai fait mes devoirs et je pense que j'ai trouvé la réponse à la question. Est-ce que c'est déjà arrivé souvent, Dan, que les 5 premiers matchs d'une Série mondiale soient remportés par l'équipe visiteuse? C'est arrivé une seule autre fois en 96, les Braves contre les Yankees. Les Braves avaient dominé les 2 premiers matchs à New York. Ils avaient gagné. Je pense au total des points. 16 à 1 ou 19 à 1 au total des points, pour, au total des deux premiers matchs, voyons. J'ai de la misère à exprimer ce que je veux dire. Après ça, ils ont perdu les trois autres matchs à Atlanta, puis ils ont perdu le match 6 face aux Yankees à New York. C'est donc la deuxième fois de l'histoire que ça se produit cette année. Et la logique voudrait que les Astros l'emportent, sauf qu'il y a quand même un point d'interrogation ce soir envers Justin Verlander. Jamais gagné un match en série mondiale, François?
Ouais, exactement. Puis tu sais, je disais, on en parlait entre amis, puis je disais, on n'a pas le choix de dire que ce soir, il faut que tu donnes l'avantage aux Nationals, oui, pour le duel de lanceurs.
Oui.
Verlander était moins solide depuis deux ou trois départs. Je trouve que les premières manches sont difficiles. Puis Strasburg a été le meilleur lanceur des Nationals pour les séries d'après-saison. C'est sûr que moi, je pense que les Nationals ont une chance de gagner, même si la confiance n'est pas de leur côté. Je vais te dire une chose, c'est que le vol d'avion là, de Houston à Washington, quand il venait 2-0 versus celui qui les a ramenés à Houston, ça ne devait pas être le même genre d'ambiance.
J'avoue.
Autour, hein?
Ouais.
Parce que tu disais, il faut juste quand on gagne une à maison, puis on va revenir, on va être en position du conducteur. Le problème, ça reste le match numéro 7, mais le problème, il est un peu des deux côtés, dans le sens où si on se rend à demain un match numéro 7, les meilleurs lanceurs ont déjà lancé. On a l'impression que Scherzer sera pas prêt en raison de ses blessures. Fait que ce serait probablement le genre de match où Aníbal Sánchez puis Zach Greinke partiraient. Puis aussitôt que t'es dans le trouble,
ouais,
là, tu vas voir sortir un Gerrit Cole sur deux jours de repos, puis tu vas utiliser tes meilleurs lanceurs. Un peu comme les Diamondbacks l'ont fait en 2001 contre les Yankees avec Curt Schilling puis Randy Johnson. Les gars avaient presque lancé à tous les matchs, puis ils étaient venus en relève dans le dernier match. Fait que c'est peut-être ça qu'on va voir. Mais c'est sûr qu'il y a de très, très, très fortes chances que les Astros gagnent la Série mondiale, que ce soit en 6 ou en 7 matchs, parce que vraiment, la série a changé de côté, puis ça même avant que Scherzer soit blessé.
Je me souviens d'avoir eu une discussion il y a à peu près un mois avec Éric Lavigne, François, dans mon émission, et je lui disais que Bruce Cassidy, c'est le genre d'entraîneur pour lequel je me forcerais. J'ai jamais dit que je ferais un premier repli défensif depuis que je joue au hockey, mais je pourrais peut-être faire un petit effort avec Bruce Cassidy. Il a l'air crédible, un peu sévère, mais agréable à côtoyer. Mais je te dirais exactement la même chose de A.J. Hinch, le gérant des Astros.
Oui, c'est un bon point. C'est un bon point parce que A.J. Hinch, ça a été un des premiers là, qui est engagé de la nouvelle génération, c'est-à-dire d'anciens receveurs très jeunes qui croient beaucoup aux statistiques avancées et qui est très, très près de ses joueurs. Ça, c'est vraiment, tu le vois dans son attitude. C'est pas un gars qui se fâche souvent, c'est pas un gars qui va planter quelqu'un durant une conférence de presse, c'est un gars qui a beaucoup de classe et qui est un excellent gérant. Mais puis honnêtement, là, je veux dire, si A.J. Hinch décidait là, après la Série mondiale qui devient agent libre, qui veut s'en aller ailleurs, tous les clubs auraient de l'intérêt pour lui parce que c'est vraiment la définition de je pense, de la nouvelle génération des gérants, puis des gars avec qui tu n'auras probablement jamais de trouble parce que ce sont des gars très préparés, très sérieux. Puis vraiment, A.J. Hinch, depuis son arrivée avec les Astros, a fait vraiment un travail formidable parce que c'est une chose, Dan, d'avoir une bonne équipe, mais c'est une autre chose de garder tout le monde heureux. Puis là-dessus, je pense que A.J. Hinch a très bien réussi.
Est-ce que George Springer est le Monsieur Octobre des temps modernes?
Ben, je dirais que lui et Altuve peuvent presque se partager le titre, mais c'est incroyable. Tu sais, puis toujours à la blague, c'est mieux être Monsieur Octobre au baseball qu'au hockey. Là, ça a des plus grandes répercussions dans ta saison.
Ouais.
Mais entre les deux, là, c'est difficile de choisir. Mais je trouve que Springer, en 2017, lorsqu'ils ont gagné la Série mondiale, tu sais, que Sports Illustrated avait déjà prévu qu'il allait être le MVP, tout s'était passé comme ça. On l'avait vraiment mis sur la map. Mais oser Altuve, quand tu regardes ses chiffres au niveau moyenne et au niveau circuit pour un bonhomme de 5-5, 5-6, c'est très impressionnant. Fait que pour n'importe quel lanceur, quand ton match commence, puis tu sais, c'est Springer, Altuve, là, tu regardes un peu plus loin, tu vois Brantley, tu vois Bregman, tu vois Gurriel. Je suis mieux d'avoir du stuff ce soir parce que sinon, ma soirée risque d'être très, très longue.
Parfait. Un gros merci. Bon sixième match à toi, François.
Merci, Dan. Bonne soirée.
À bientôt.